Merci de votre accueil. J'ai donc effectivement été en charge des relations économiques entre la France et la Chine pendant 5 ans, de 1992 à 1997, où j'étais à la tête de la mission économique française à l'ambassade de France à Pékin. Mais je rajoute aussi que j'ai eu une deuxième vie chinoise, 5 ans supplémentaires, de 2005 à 2010, en tant que consul général à Chengdu. Consulat général qui venait de réouvrir, puisqu'il avait existé une première fois de 1906 à 1949, mais qui avait fermé en 1949, et que Jacques Chirac, lors d'un voyage officiel qu'il faisait en 2004 en Chine, en passant par Chengdu, que Jacques Chirac avait décidé donc de réouvrir, et ce qui fut fait donc 1 an plus tard, en 2005. Voilà donc de ces 10 ans passés en Chine au cours de 2 séjours, j'ai retenu, la retraite étant venue, l'idée qu'il fallait peut-être essayer d'améliorer la connaissance réciproque qu'ont les Français de la Chine et les Chinois de la France, et notamment donc en essayant de travailler sur leur histoire commune. Et donc je me suis attelé à la tâche. Alors j'avais déjà eu une première approche de ce travail quand j'étais consul à Chengdu, puisque, ayant appris que nous ouvrions un consulat donc en 2005, et qu'un an plus tard, on allait fêter le centenaire de la création du premier consulat de France à Chengdu, je m'étais attelé à l'organisation d'une exposition qui, naturellement, m'a emporté jusqu'à l'écriture d'un livre, et qui était donc une vision un peu géographique, un peu particulière des relations entre la France et le Sichuan, cette fois-ci, province chinoise, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors pourquoi au fond s'intéresser à cette relation historique entre la France et la Chine? Alors d'une part parce que, effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, elle est un peu longue, puisque nous avons 8 siècles d'histoire commune. Et en même temps, parce que elle est assez exemplaire de la difficulté que nous avons à appréhender un monde divers, que ce soit au XIIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe ou au XXe. En fait, il y a eu une alternance d'attirance pour la Chine ou de rejet, une alternance d'efforts d'intelligence aiguë menés de part et d'autre, et en même temps des erreurs monumentales qui parfois ont été tragiques. Et c'est cette histoire un peu mouvementée que j'ai essayé de retracer dans ce livre, en ayant comme ligne directrice comment nous étions passés, au cours de ces 8 siècles, de la méconnaissance réciproque à la reconnaissance qui culmine donc en 1964 avec l'acte historique et politique du général de Gaulle lorsqu'il reconnaît la Chine populaire. Alors ce passage de la méconnaissance à la reconnaissance, effectivement, c'est la trame un peu de cette histoire, mais c'est aussi au fond un des aspects de la découverte réciproque des civilisations au sein de l'humanité, c'est-à-dire que nous avons toujours tendance à méconnaître trop ce qui n'est pas nous-mêmes, à mépriser parfois effectivement ce qui n'est pas nous-mêmes, ou à refuser de le reconnaître. Et en même temps, cette diversité est un aiguillon majeur dans l'intelligence humaine pour effectivement prendre en considération cette humanité diversifiée, qui n'est pas unique, qui a sa richesse justement dans ses différences. Alors, en commençant à travailler sur cette histoire commune, naturellement, j'ai commencé par le début, et je me suis aperçu que, au fond, jusqu'au XIIIe siècle, la France et la Chine s'ignoraient superbement. En fait, déjà, ces deux civilisations avaient connu des heures de gloire et des croissances assez exemplaires, mais elles n'étaient pas en contact. Et elle n'était pas en contact tout simplement parce que les moyens de l'époque faisaient que les voyages n'étaient pas aussi faciles que de nos jours et que les distances considérables qui séparaient les deux extrêmes du continent eurasiatique faisaient que le contact ne s'était pas établi. Et donc sur les cartes du début du XIIIe siècle, la Chine ne figure pas, ou elle figure comme une tache blanche au contour indéfini, cette forme de terra incognita, qui en fait révèle que depuis l'Antiquité, les progrès de connaissance de la Chine n'avaient pas évolué. Au fond, au XIIIe siècle, on avait la même connaissance de ces terres au-delà d'une frontière connue. On avait la même connaissance que celle qu'avaient les Grecs et les Romains. Et les choses n'avaient pas évolué. Alors naturellement, un événement vient perturber cette ignorance superbe. C'est l'apparition donc au fin fond du continent eurasiatique d'une puissance inouïe, qui est la puissance mongole, qui commence à émerger donc au début du XIIIe siècle avec Gengis Khan. Gengis Khan qui réussit à fédérer les différentes tribus mongoles qui avaient passé leur temps au cours des siècles précédents à s'entretuer. Et il les fédère et il impulse donc un mouvement de conquête qui amène donc les Mongols à déferler jusqu'en 1241 aux portes de Vienne en Autriche. Enfin, Vienne de l'époque. Et ils arrivent même sur les bords de l'Adriatique. Donc ce mouvement semble une invasion irrépressible qui naturellement inquiète au plus haut point les souverains qui règnent sur l'Europe à cette heure-là, notamment l'empereur germanique, Frédéric, mais aussi la papauté et le roi de France, qui sont grosso modo les trois grandes puissances à l'époque en Occident. Mais rien ne semble pouvoir arrêter cette puissance mongole qui déferle, qui est une de ces invasions de barbares telles que l'Europe les a connues depuis Attila jusque donc aux Mongols. Et en fait, c'est un événement imprévisible qui sauve l'Europe de cette invasion. C'est la mort de l'empereur mongol de l'époque qui intervient brutalement et qui amène les chefs des armées mongoles à devoir retourner d'urgence dans leur capitale, Karakorum, pour élire un nouvel empereur, puisqu'en fait, les élections se faisaient dans le cadre d'une sorte d'assemblée des grands chefs mongols. Et naturellement, c'est la même dans la lignée de Gengis Khan que devait être trouvé le nouvel empereur, mais il devait être agréé par les puissants du régime de l'époque. Donc c'est cet événement qui permet en fait à l'Europe d'échapper à l'invasion mongole. Naturellement, les responsables de l'époque, en premier chef donc le roi Louis IX, Saint-Louis, notre futur Saint-Louis, et le pape Innocent IV, qui vient de monter sur le trône papal, réfléchissent avec beaucoup d'intelligence à cette nouvelle configuration du monde. En fait, il faut avoir conscience que cette invasion qui vient du fin fond du continent eurasiatique fait découvrir en même temps l'existence de populations vivant donc dans ces confins barbares. Et c'est donc ce problème que les grandes puissances européennes ont à traiter à l'époque. Alors elles vont le faire de façon très, très intelligente en envoyant des émissaires auprès donc des Mongols pour essayer de mieux comprendre cette civilisation un peu envahissante, mais qui semble très puissante de l'époque, et en même temps de tisser des relations avec eux. Alors ce qui va être un ferment pendant 50 ans des relations dans les deux sens, entre les Mongols et grosso modo la papauté et le royaume de France et le royaume d'Angleterre, c'est l'apparition d'un ennemi commun qui est au milieu entre eux et qui se trouve être donc les Arabes, les musulmans de l'époque, qui constituent le troisième grand pôle de puissance dans le monde connu et qui, depuis le début du croisade, est effectivement, je dirais, un ennemi, entre guillemets, un ennemi pour l'Occident. Et l'idée donc d'une alliance entre les Mongols et les puissances chrétiennes apparaît à ce moment-là. Et c'est une histoire qui, moi, m'a semblé extraordinairement passionnante que d'étudier comment, après avoir effectivement subi cette invasion, et encore une fois soudaine, Et comment, effectivement, cette apparition d'un peuple nouveau, d'une civilisation nouvelle, d'une puissance nouvelle, est très rapidement assimilée par Louis IX, Saint-Louis, et par la papauté, pour essayer d'en tirer, au fond, des bénéfices, plutôt que de se cantonner dans une attitude d'ignorance ou de crainte. Et donc on assiste à ce moment-là, d'une part sur le plan politique, à des négociations réelles qui sont entreprises entre la France, l'Angleterre d'un côté, la papauté de l'autre et les dirigeants mongols. Et on assiste aussi aux premières tentatives de compréhension de cette civilisation totalement inconnue. Quand les Mongols arrivent en Europe à cette période-là, c'est un peu comme si les Martiens arrivaient chez nous, dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance de ce peuple. Et donc, il y a tout un effort d'intelligence qui est mené, qui montre au fond que l'homme du XIIIe siècle était capable d'une ouverture d'esprit aussi grande que l'homme du XXe siècle, même parfois plus grande, et capable aussi d'imaginer des solutions qui semblaient jusqu'alors inimaginables, qui est donc de trouver des intérêts communs, des choses à défendre en commun. Et c'est toute l'attitude qui sera celle donc de Saint-Louis, puis du roi Édouard Ier d'Angleterre, des différents papes qui se succèdent, et des empereurs mongols qui jusqu'à la fin du XIIIe siècle, vont tenter de trouver des terrains communs avec les puissances européennes. Alors, il y aura jamais vraiment de concrétisation de cette tentative de rapprochement, sauf à un moment donné où, en 1258, 1260, à partir du moment où les Mongols arrivent jusqu'à Bagdad et conquièrent Bagdad, c'est-à-dire font tomber la dynastie arabe qui régnait depuis des siècles sur Bagdad. Il y a une période où effectivement les croisés, donc les Français et les Européens qui étaient dans les petits royaumes d'Antioche ou de Tyr ou de Sidon, font alliance avec les Mongols pour essayer de s'opposer à l'autre puissance arabe qui monte à l'époque, qui sont les Mamelouks. Et donc on aura pendant 2 ans à peu près des armées communes entre les Mongols et les croisés, qui batailleront contre effectivement les Mamelouks en Palestine, sans que cela aboutisse à une victoire, puisqu'en définitive, un autre événement toujours de même nature obligera les troupes mongoles à refluer. C'est à nouveau la mort de leur empereur, qui en 1258 oblige effectivement les troupes mongoles à devoir rapidement faire reflux vers leur base de départ. Au-delà de ces tentatives de liaison ou d'alliance continentale, ce qui est intéressant, c'est de noter comment, des deux côtés, on essaye de comprendre ce qui était jusqu'à présent l'inconnu complet. Et heureusement, les quelques envoyés, certains d'entre eux, les quelques envoyés donc du pape ou du roi de France, qui sont allés jusqu'à la cour mongole de l'époque, à Karakorum, ont pu laisser des écrits, dont les deux plus célèbres sont celui de la première mission papale, celle de Jean du Plan Carpin, qui en 1247, à l'occasion, donc en 1246, à l'occasion de rencontrer la cour mongole à Karakorum, et il fait son rapport, qui heureusement est resté jusqu'à nous. Dès qu'il est de retour, et les voyages durent quand même 18 mois à peu près, hein, 2 ans pour les meilleurs d'entre eux, aller-retour. Et donc ces rapports nous sont restés, ce rapport de Jean du Plan Carpin nous est resté, de la même façon que nous est resté le récit qu'a fait Guillaume de Rubruck, qui est envoyé par Saint-Louis en 1253 pour rencontrer lui aussi l'Empire mongol. Et ce récit de Guillaume de Rubruck, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le lire, mais en tout cas, je vous invite fortement à le faire si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le faire. Ce récit est extraordinaire parce que non seulement c'est un récit de voyage, mais ensuite c'est le premier vrai témoignage ethnographique que l'on a sur ces peuples qui sont à l'autre bout de l'Europe et avec une perspicacité, un regard, une lucidité extraordinaire qui font de cet ouvrage un exemple pour les grands livres de découverte et de voyage. Alors je pourrais continuer longtemps sur cette période un petit peu méconnue quand même des relations entre la France et l'Empire mongol, naturellement, à l'époque, n'est pas encore complètement l'Empire de Chine. C'est-à-dire que de la même façon que les Mongols sont en train de conquérir une partie de l'Europe, en tout cas ils conquièrent physiquement et pour des décennies toute la partie qui va jusqu'à la Perse et donc jusqu'à Bagdad d'un côté, et toute la partie au nord qui va jusqu'à Moscou, au Grand-Duché de Moscovie. À cette invasion vers l'ouest correspond une invasion vers l'est aussi des Mongols qui conquièrent petit à petit la Chine. Alors déjà à la période dont je vous parle, au milieu du XIIIe siècle, toute la Chine du Nord est conquise par les Mongols. Et jusqu'au fleuve jaune, tout ça est un territoire sous domination mongole. Et dans les 20 ans qui suivent, les 25 ans qui suivent, toute la Chine actuelle, telle qu'on la connaît actuellement, jusque donc au rivage du Vietnam, tous ces territoires sont aussi conquis par Kubilai, qui est donc l'empereur qui règne à partir de 1260 sur la Chine. Et donc les Mongols, en même temps qu'ils conquièrent ce territoire chinois, se sinisent. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, la civilisation mongole est réelle, mais elle fait face, en fait, à une civilisation qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus profonde que la leur. Et donc, ils ont cette intelligence, au fond, d'acquérir la civilisation chinoise et de se siniser. Et donc les Mongols vont régner jusque la fin du XIIIe siècle, la fin du XIVe siècle, pardon, 1369, si ma mémoire est bonne, sur la Chine avant d'être remplacés par les Ming. Alors la chute de la dynastie mongole a une conséquence assez nette, c'est que la dynastie des Ming, qui remplace donc cette dynastie des Yuan, des Mongols devenus dynastie des Yuan. Cette dynastie des Ming, par réaction face à ce siècle qui a été le siècle mongol à l'origine en Chine, les Ming décident de se refermer un peu sur eux-mêmes, de couper les ponts avec la politique qui avait été celle des Mongols, qui était vraiment une politique largement ouverte vers l'extérieur, et ce recroquevillement des Ming sur la Chine va avoir effectivement pour conséquence la rupture des relations avec l'Occident d'une façon générale et un approfondissement de la culture chinoise, un retour donc aux sources de la culture chinoise, ce qui donnera lieu notamment sur le plan des arts à ce que on connaît maintenant de ce magnifique art de l'époque des Ming. Et donc il y a un peu un trou. Pendant près de plus d'un siècle, dans les relations entre l'Occident et la Chine. Et en fait, c'est par hasard qu'on découvrira l'Amérique, puisqu'en fait, comme vous le savez, quand Christophe Colomb part vers l'Amérique, il a pour objectif de découvrir une voie, donc cette fois-ci par l'Ouest, pour atterrir. Pour arriver donc en Chine. Et naturellement, ce qui n'était pas prévu, c'est que entre Séville et Cadix et la Chine, il y avait le continent américain qu'ils découvrent sur leur route. Donc c'est un peu par hasard que l'Amérique est découverte à l'époque. C'est la Chine qui était l'objectif toujours des puissances européennes de l'époque. Alors naturellement, à partir du moment où les grandes explorations maritimes de Magellan, etc., ont lieu, cette fois-ci en empruntant la route de l'Est, la route maritime de l'Est, effectivement, les choses changent parce que les relations vont devenir plus fréquentes, plus nombreuses et plus profondes entre l'Europe et la Chine. Naturellement, la France joue un rôle très modeste à l'époque, puisque nous n'avons pas la puissance maritime des Espagnols et des Portugais. Et donc, dans le partage du monde qui a lieu lors du traité de Tordesillas, qui partage entre les Portugais et les Espagnols le monde en deux, ce sont les Portugais qui se voient accorder le privilège de découvrir donc les terres du côté asiatique. Et c'est donc la première aventure des Portugais qui arrivent en Chine, à Canton, dans le delta de la rivière de Canton, en 1514, et qui vont tenter pendant les premières années de tisser des relations difficiles avec les Ming de l'époque, parce que les Ming, encore une fois, ne souhaitent absolument pas tisser des relations. Et donc, les Portugais seront les premiers à essayer d'ouvrir cette porte chinoise qui restera quand même encore largement fermée. Il faudra en fait attendre le mouvement des jésuites. Alors, naturellement, je rentre pas trop dans les détails, nous n'avons pas le temps, mais il faudra attendre le mouvement des jésuites à partir donc de la fin du XVIe siècle, avec un personnage dont vous avez entendu parler, j'en suis sûr, Matteo Ricci, pour que, effectivement, la découverte, au fond, marchande que les Portugais avaient initiée au début de ce siècle se transforme en une véritable découverte intellectuelle. Et donc, ça va être tout le travail des jésuites, extraordinaire travail des jésuites, qui va commencer par Matteo Ricci et qui va se terminer par la fin de la congrégation des jésuites en 1763, mais qui sera ensuite repris par d'autres. Et donc cette aventure des jésuites en Chine joue un rôle cardinal dans la découverte par l'Occident de la civilisation chinoise. Alors les jésuites ont une politique tout à fait originale pour l'époque. Les jésuites décident, parce que leur but, naturellement, est d'évangéliser la Chine. Les jésuites décident, d'une part, de taper au plus haut niveau, c'est-à-dire de viser non seulement l'empereur chinois lui-même, mais aussi toute sa cour. Et en fait, comprennent très vite que l'évangélisation par la base est quasiment impossible compte tenu de la masse du territoire et de la population chinoise. Et donc, essayent de s'introduire en Chine par la tête de la société. Et deuxièmement, les jésuites ont cette deuxième fulgurance qui est, au fond, d'essayer de se mêler dans le monde chinois, d'adopter un certain nombre de réflexes chinois, même de s'habiller comme des Chinois, et donc essayent, au fond, de rabattre un peu de leur certitude dans la foi chrétienne, dans la vérité chrétienne, pour essayer de comprendre au fond le monde dans lequel ils vont essayer de travailler. Et pour comprendre ce monde, eh bien, ils se lancent dans une tâche énorme, qui est effectivement de lire tous les grands classiques chinois, de traduire ces classiques pour les Occidentaux. Ils se lancent aussi dans la conquête de l'intelligentsia locale par le biais des sciences, et c'est vrai que les jésuites ne sont pas seulement des hommes de foi, ce sont des savants à l'époque, et donc ils amènent avec eux toutes les connaissances mathématiques, astronomiques, médicales, botaniques, architecturales, artistiques, qui sont les leurs. Et donc pendant 2 siècles, les jésuites vont travailler au plus haut niveau de la société chinoise pour tisser un dialogue avec cette civilisation chinoise. Alors, ils vont aller assez loin parce que, naturellement, cette civilisation ne se laisse pas bousculer. Elle est plus puissante encore, en durée en tout cas, que la civilisation européenne. Elle est tout aussi profonde, elle est tout aussi riche. Et donc, il n'est pas envisageable pour les jésuites de ne pas tenir compte de cette civilisation dans laquelle ils vont devoir se développer et convaincre. J'espère que ce n'est pas le gong de la fin, quand même. Donc, cette intelligence que vont avoir les jésuites va aller assez loin, puisque ils vont être prêts à un certain nombre de concessions, et notamment pour accepter les rites confucéens et essayer de faire une sorte de syncrétisme entre la religion catholique et les formes intellectuelles de pensée chinoise, en respectant donc les rites confucéens et notamment le culte des ancêtres, tout en essayant de rendre ces rites conciliables avec la foi catholique. Alors tout un débat va s'engager en Europe et qui va durer pendant plus d'un siècle sur cette compatibilité entre la vérité chrétienne et ce milieu local qui naturellement a d'autres croyances, d'autres façons de faire. Ce qui est assez extraordinaire à l'époque, c'est que les empereurs qui sont devenus d'origine mandchoue à l'époque, puisque les Ming entre-temps ont été renversés, et c'est donc encore une fois une dynastie d'origine étrangère qui s'installe en Chine, donc les Qing d'origine de Mandchourie. Alors ces Qing, comme l'avaient été les Mongols, les Yuan, en fait sont d'une grande ouverture d'esprit, et donc tout en maintenant naturellement tous les aspects de la civilisation chrétienne, sont ouverts à cette civilisation venue de l'autre monde. Et donc, il va y avoir au départ une assez grande tolérance de la part de l'intelligentsia et des dirigeants politiques de l'époque chinoise pour essayer de comprendre ce monde qui n'est pas le leur. Donc, il y a une période où, à la fois du côté des jésuites, mais aussi du côté donc de l'intelligentsia chinoise, il y a une double volonté de comprendre ce monde nouveau qui surgit et qui n'est pas du tout comme le leur et qui mérite au fond un effort de connaissance, bien sûr, mais aussi un respect et une tentative de vivre dans un ensemble commun. Alors naturellement, à l'époque, la chrétienté, le catholicisme comporte aussi un volet qui est moins ouvert, moins tolérant que ne l'étaient les jésuites eux-mêmes. Et donc, c'est cette querelle entre les anciens et les modernes, cette querelle entre ceux qui sont favorables à une forme de syncrétisme et d'autres qui sont pour la vérité révélée et rien d'autre, c'est cette querelle qu'on appellera la querelle des rites, qui va un peu empoisonner quand même les relations entre l'Occident et la Chine, grosso modo de 1650, 1655, même si on se réfère à quelques écrits de Pascal dans les provinciales qui sont particulièrement anti-chinois, et jusque donc à 1763, date à laquelle les jésuites sont interdits en Europe par les pouvoirs européens et notamment Rome. Donc pendant toutes ces décennies, il y aura des querelles intellectuelles sans fin sur la façon dont le christianisme, le catholicisme doit travailler en Chine, avec des luttes très fortes et très sournoises entre les différents ordres, les jésuites d'un côté, les dominicains de l'autre. Et donc tout ça va alimenter au fond des débats intellectuels sans fin en Europe, qui sont à la fois parfois un peu misérables, mais en même temps la preuve d'un véritable débat sur l'ouverture d'esprit que l'on doit avoir à l'époque. Là-dessus va venir se greffer un mouvement annexe qui est la philosophie des Lumières, le mouvement des Lumières, qui effectivement en Europe, mais plus particulièrement en France, va s'appuyer un peu sur les travaux des jésuites pour montrer que à l'autre bout du monde, il y a une autre civilisation, une autre forme de pouvoir. Et donc on va passer d'un débat religieux à un débat d'organisation politique et sociale. Et nos philosophes, Voltaire en tête, mais Diderot aussi, Montesquieu, vont utiliser à fond l'exemple chinois, d'une part pour montrer que d'autres civilisations existent, et aussi pour montrer que d'autres formes d'organisation que la monarchie de droit divin existent, en mettant en avant, parfois en mettant un peu de l'eau de rose quand même dans leurs écrits, en mettant en avant le despotisme éclairé de l'empereur chinois qui leur semble être plus approprié à une évolution politique que ne l'est le système français de l'époque de monarchie absolue. Et donc, la Chine va être utilisée pendant tout le XVIIIe siècle, va être utilisée, mais bien au-delà de ce mot un peu en deçà de la réalité, la Chine va être un peu au centre des réflexions de tout ce mouvement encyclopédiste qui va, par le biais donc des écrits philosophiques ou parfois littéraires, pensons à L'Orphelin de Chine de Voltaire, va essayer de montrer que la diversité du monde, d'une part, existe et que donc il n'y a pas de vérité absolue, et d'autre part, que les formes d'organisation de gouvernement, Montesquieu étant le premier, mais Voltaire prenant le relais, les formes d'organisation de gouvernement doivent évoluer vers une sorte de monarchie plus éclairée que celle que nous connaissons à l'époque. Et tout ça va fortement contribuer à cette montée progressive d'un mouvement qu'on appellera le mouvement des Lumières, mais qui aboutira à la Révolution de 1789. Donc il faut avoir conscience que sur le plan des idées, la Chine occupe à l'époque une place énorme dans le débat en Europe sur l'organisation politico et sociale et en même temps sur l'avenir de la religion. Et enfin, troisième élément qui vient se greffer au-delà donc de l'œuvre particulière des jésuites ou des philosophes, il y a un goût pour la Chine qui envahit l'Europe pendant plus d'un siècle et qui va prendre des formes que l'on a du mal encore à imaginer aujourd'hui, qui est du même acabit au fond que l'influence que les États-Unis vont avoir sur l'Europe au XXe siècle et notamment dans la deuxième partie du XXe siècle. La grande puissance de l'époque en Europe est perçue comme étant la Chine. Non seulement par sa taille, par la richesse de ses fabrications, par son mode d'organisation politique et sociale, la Chine apparaît presque comme un modèle. Et le goût pour les choses chinoises prend des formes absolument inouïes. Bien sûr, par le biais de tout ce que l'on connaît, qui sont les soieries, les porcelaines, et aussi la laque, les objets de jade, d'ivoire. Et donc, on voit déferler, alors tout ça naturellement alimentant un commerce, on voit déferler toutes les meilleures productions artistiques de la Chine. Et avec un phénomène qui est assez étonnant, c'est qu'on commence en Europe et notamment en France, à copier donc ces productions chinoises. Donc en France, on fait effectivement de la porcelaine de style chinois. On commence notamment à Lyon à faire des soieries qui reproduisent complètement les motifs chinois. On commence à faire des papiers peints, puisque c'est l'époque des premiers papiers peints qui reproduisent les décors chinois. On construit dans les parcs des pagodes. Le premier Trianon à Versailles et ce qu'on appelle le pavillon de porcelaine, qui est, avant d'être le Trianon d'aujourd'hui, est un bâtiment d'inspiration totalement chinoise. Et donc il y a une sorte de fascination pour la Chine au XVIIIe siècle, dont on a un peu oublié les traces, mais dont on conserve encore le souvenir, ne serait-ce que dans les quelques meubles que nos familles ont conservés, ou dans les vases chinois que nos familles ont conservés, ou dans les décors qui encore subsistent, comme les singeries qu'on trouve à Chantilly ou autre. Donc la Chine occupe pendant tout ce XVIIIe siècle une place prédominante. Alors vous me direz, mais quid du côté chinois? Parce que vous parlez au fond beaucoup de la relation entre la France et l'Europe et la Chine, mais quid de la relation entre la Chine et l'Europe? Alors là, c'est effectivement très déséquilibré, puisqu'en fait, notre curiosité, qui est quand même à la base intellectuellement de tout ce mouvement qui démarre avec les grandes découvertes, notre curiosité, les Chinois ne l'ont pas. Les Chinois sont persuadés que, au-delà de la Grande Muraille, au-delà de leur propre organisation, au-delà de leur propre culture, tout n'est que barbarie. Et donc, pendant des siècles et des siècles, cette croyance qu'ont les Chinois d'être au fond seuls au monde, va un peu les gêner dans leur découverte du monde extérieur. Alors, la Grande Muraille, on a souvent dit que c'était un monument extraordinaire qui avait été fait pour protéger la Chine des invasions barbares, effectivement de ces barbares qui descendaient de Mongolie ou de Mandchourie. En fait, la Grande Muraille était d'abord une prison. Ça enfermait le système chinois, ça l'empêchait d'aller voir ailleurs. Et ce manque de curiosité des Chinois est un énorme problème, parce que quand vous avez dans le monde de l'époque qui commence à exister, qui commence effectivement à être interconnecté, même si le mot est trop moderne, l'absence de la Chine est perçue comme étant une anomalie. Il n'est pas raisonnable qu'un pays aussi fort, aussi puissant, ignore à ce point ses voisins. Et donc, la Chine, qui est l'empire du milieu, vous savez, Zhongguo veut dire l'empire du milieu, à force de se considérer comme le milieu du monde, effectivement, a ignoré un peu trop le monde autour d'elle. Alors, naturellement, ça finit par avoir des répercussions un peu malheureuses, c'est-à-dire que l'Europe, à partir du 19e siècle, connaissant sa croissance et son développement, notamment du côté britannique, va petit à petit forcer les portes de la Chine. Alors pendant longtemps, seuls les navires qui arrivaient à Canton établissaient ce lien avec la Chine. Il y avait quelques Chinois qui étaient désignés par les autorités pour être des correspondants, des marchands occidentaux qui venaient à Canton. Et donc tout passait par eux. Mais il était interdit aux Chinois normaux d'avoir des relations avec les Occidentaux. Il faut avoir quand même conscience que pendant cette période, grosso modo, de 1514 à 1840, donc ça fait une assez longue période, le nombre de Chinois qui sont venus en Europe est inférieur à 10. Il n'y a pas eu, moi j'en ai comptabilisé 8. Bon, alors disons qu'il y en a 10. Bon. Mais il n'y a pas du tout eu le même mouvement de curiosité de la Chine vers l'Occident que ce mouvement de curiosité qu'on a connu en sens inverse. Nous avons eu des milliers de personnes qui, par le biais des navires, etc., essayaient de pénétrer le monde chinois. Alors, ils n'allaient pas très loin, mais au fond, ils étaient à la frontière et ils l'observaient. Et les jésuites, qui étaient effectivement au centre de l'Empire, puisque eux avaient eu l'autorisation de résider à Pékin, les jésuites inondaient l'Europe par le biais de ces lettres curieuses et édifiantes, inondaient l'Europe pour décrire cette civilisation chinoise qu'on finissait donc par bien connaître. Donc il y a un déséquilibre là qui est tellement grand au début du 19e siècle, à l'époque où les puissances européennes commencent à vouloir connaître le monde dans son ensemble et le dominer. Il y a un déséquilibre qui est vraiment très, très marqué. Naturellement, cela va prendre des formes pas très agréables. À partir de 1830, les Britanniques qui effectivement dominent l'Asie, puisque la France, malheureusement, après 1753, le fameux traité est obligée d'abandonner toutes ses colonies à l'extérieur, et donc notamment les colonies qu'elle avait en Inde. Et donc les Anglais, à partir de l'Inde, en fait, dominent à l'époque déjà à peu près toute l'Asie dans les relations maritimes et commerciales. Et donc, les Anglais vont être les premiers à ouvrir de force les frontières de la Chine. Et donc, ça va être la première guerre de l'opium, dite de l'opium, tout simplement parce que les Anglais qui avaient développé un commerce de l'opium à partir de l'Inde, l'opium fabriqué en Inde, qui était vendu en Chine, voulait absolument, effectivement, passer outre aux interdictions de l'opium édictées par les autorités chinoises et donc forcer ce barrage, tout simplement pour des raisons mercantiles, hein, ce n'était pas autre chose. Et donc la première guerre de l'opium, qui a lieu en 1840, va être la première marche de cette ouverture forcée de la Chine. Alors, je passerai un peu rapidement sur cette politique britannique qui ne nous intéresse pas au premier chef, mais il faut avoir conscience que la France, à l'époque, a connu, à cause de la Révolution, puis ensuite de la focalisation par Napoléon sur la politique continentale, a eu une absence totale politique, une absence politique totale vis-à-vis de l'Asie à l'époque, alors que c'est l'époque où les Anglais envoient l'ambassade de Macartney en 1793, dont vous avez entendu parler sans doute. Donc nous avons été absents de l'Asie. Et naturellement, après Napoléon, après 1815, la faiblesse française fait qu'elle n'a pas de capacité à avoir une politique coloniale active. Donc les Français vont être suivistes des Anglais à partir de 1840. Et naturellement, dès que les Anglais auront obtenu de la part des Chinois l'ouverture des premiers ports pour installer leur commerce, les Français vont profiter de cette occasion, comme les Américains d'ailleurs, ou les Russes, vont profiter de cela pour signer aussi un accord avec les autorités chinoises. Et donc ce sera le premier traité de toute une série de traités avec la Chine, qui nous permet d'avoir donc une ouverture progressive de différents ports, l'installation de concessions. Ce sera le cas après les deuxièmes guerres de l'opium, 1858-1860, où là, effectivement, le corps expéditionnaire franco-anglais aura la main lourde, puisque c'est l'époque du sac du Palais d'été dont vous avez entendu parler, avec effectivement là une véritable guerre et une occupation par les troupes franco-britanniques de la capitale Pékin de l'époque, la fuite de l'empereur, qui un an après décède et sera remplacée par l'impératrice Zhuyi par étapes. Donc c'est le début d'une politique agressive forte qui, du côté français, prendra des allures un peu particulières, puisque, comme nous avions commencé à coloniser le Tonkin, enfin l'Indochine, le Tonkin tout particulièrement à l'époque, et que ça faisait partie de la zone d'influence chinoise, s'ensuit une guerre franco-chinoise qu'on a un peu oubliée en 1885, qui amène donc les troupes de l'amiral Courbet à bombarder les ports du Fujian, notamment Fuzhou, où nous avions pourtant créé en 1860, c'est-à-dire 20 ans avant, dans le cadre d'une première coopération franco-chinoise, un arsenal pour développer la flotte chinoise avec l'aide de la France. Donc, eh bien, on va bombarder nous-mêmes les arsenaux que nous avions construits avec les Chinois quelques années auparavant. Donc naturellement, cette guerre franco-chinoise laissera des traces, de même que le sac du Palais d'été avait laissé des traces. Et il y aura un troisième épisode qui sera pour les Chinois aussi meurtrier. C'est effectivement la révolte des Boxers et l'expédition punitive internationale qui s'ensuit, où, il faut en avoir conscience, pour la première fois dans le monde, on voit une expédition regroupant Français, Anglais, Allemands, Américains, Russes, Japonais, qui se mettent ensemble pour sorte de l'ONU de l'époque, pour effectivement envahir la Chine à partir de Tientsin jusqu'à la capitale Pékin, pour mettre un terme à cette révolte des Boxers. Donc les épisodes guerriers à l'époque ont laissé effectivement des traces dans la psychologie collective chinoise, et naturellement aujourd'hui encore. Les Chinois n'ont pas oublié le sac du Palais d'été et la répression qui a suivi la révolte des Boxers. La guerre franco-chinoise, ils l'ont un peu oublié parce que c'était dans le sud et donc ça n'a pas touché Pékin. Donc cette deuxième moitié du 19e siècle est un siècle effectivement où la compréhension entre les peuples n'est pas vraiment à l'ordre du jour. C'est plutôt l'impérialisme dans toute sa violence et dans toutes ses composantes, qui est la dominante de la relation entre les puissances occidentales et la France en particulier, et la Chine. Et cependant, pendant cette période, il y a en même temps poursuite, au fond, d'une tentative de compréhension et de respect mutuel. Alors, cette tentative va être rendu possible par, au fond, un certain nombre de religieux, toujours nos jésuites, qui sont ressortis de leur interdiction de 1763, qui sont à nouveau autorisés. Donc les jésuites retournent en Chine à partir de 1840-1850, mais aussi d'autres ordres, notamment les missions étrangères de Paris, mais aussi les dominicains, les franciscains. Et donc repartent dans une politique donc de contact avec la Chine, en étant un petit peu moins obscur quand même qu'il ne l'avait été, je parle non pas des jésuites, mais des autres ordres, quelques siècles plus tôt, et donc en jouant beaucoup plus sur la coopération, sur l'aide en matière de santé, en matière d'éducation, pour essayer donc de tisser des liens avec la Chine. Et donc les efforts qui sont menés par les religieux à l'époque pour développer les hôpitaux, les orphelinats, pour ouvrir les premières écoles de type occidental, pour créer les premières universités, notamment l'université d'Aurore de Shanghai, sont des éléments essentiels dans ce dialogue qui, parallèlement donc à des actes de guerre, se poursuit entre les deux ensembles européens et chinois. Alors j'insiste sur cet aspect dans mon livre parce que bon, tout le monde connaît un peu les épisodes malheureux des relations franco-chinoises au cours du 19e et début 20e, mais on ne connaît pas assez, à mon avis, ces relations qui, parfois souterraines, mais parfois aussi très publiques, ont permis le maintien d'un climat de compréhension entre la France et la Chine. Alors, le meilleur exemple en est peut-être donné par ce qu'on a appelé l'école de sinologie française, qui, à partir de la fin du 19e siècle, rassemble quelques grands savants comme Chavannes, Maspero, comme Pelliot, Paul Pelliot, comme de Miéville ou comme Marcel Granet, qui au sein de l'université française, vont imprimer leur marque et vont permettre à la sinologie mondiale, au fond, de disposer des outils nécessaires à une meilleure compréhension de la civilisation chinoise. Mais au-delà donc de ces universitaires, de ces savants, il y a aussi toute une catégorie de population. Je parlais tout à l'heure des religieux, mais vous avez aussi au sein du monde diplomatique des gens qui jouent un rôle non négligeable, qui ne sont pas forcément les ministres qui décident de la politique générale à Paris, mais qui sur le terrain jouent un rôle de passerelle avec les autorités chinoises qui est tout à fait intéressant à suivre. Et enfin, dans le monde artistique et littéraire, vous avez quelques grands noms qui s'intéressent à la Chine. Alors naturellement, Paul Claudel est peut-être l'initiateur de ce mouvement. Paul Claudel qui était conseiller commercial, économique et commercial en Chine à la fin du 19e siècle, quand il était dans les consulats de Fuzhou, de Hankou ou de Tianjin, Paul Claudel commençait sa carrière d'écrivain et il sera très marqué par ses 15 ans de séjour en Chine et ça alimentera toute son œuvre par la suite. Il mènera d'ailleurs cette double vie, qui est celle d'un diplomate, puisqu'il sera ambassadeur au Japon, son dernier poste, et aussi l'écrivain que nous connaissons. Mais au-delà de Paul Claudel, vous avez Alexis Saint-Léger ou Saint-Jean-de-Perse, puisque en fait son nom de plume, Saint-Jean-de-Perse, est peut-être plus connu, qui a aussi fait un séjour comme jeune attaché diplomatique à Pékin et qui en retire des écrits assez étonnants sur l'expérience qu'il connaît en Chine. Vous avez un écrivain comme Victor Segalen, qui effectivement vivra une dizaine d'années en Chine au début des années 1900, et qui lui sera profondément marqué par la Chine dans toute son œuvre, ou encore d'autres peut-être moins célèbres comme Berthelot, qui animera la politique diplomatique de la France en Asie pendant le premier quart du XXe siècle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au milieu de ce tumulte un peu guerrier pendant ce siècle qui va de 1840 à 1940, vous avez aussi des découvreurs, des intermédiaires qui permettent aux deux civilisations de mieux se connaître. Du côté chinois, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que tout à l'heure, je disais qu'il y avait très peu de Chinois qui étaient venus en Europe dans la période précédente. Par contre, à partir de l'ouverture de la Chine, donc de la chute de l'Empire chinois, de la dynastie chinoise en 1911 et l'avènement de la République chinoise, de la première République chinoise, Il y a tout un mouvement de jeunes Chinois qui cherchent à travailler pour leur pays, au fond, à s'approprier les techniques et les modes de fonctionnement occidental, parce qu'ils voient bien la différence de puissance entre l'Occident d'un côté et leur malheureux pays de l'autre. Et donc, parmi ces jeunes Chinois, un grand nombre choisissent la France pour venir faire leurs études. Et donc, on a une période tout à fait étonnante, qui, grosso modo, va de 1910 à 1930, où un grand nombre, plusieurs milliers de jeunes Chinois viennent se former en France. Et parmi eux, ceux qui vont diriger la Chine pendant un grand nombre d'années, dans les décennies qui suivront. Alors, naturellement, les deux plus célèbres d'entre eux, c'est Chuen Lai d'un côté et Deng Xiaoping de l'autre. Chuen Lai et Deng Xiaoping qui sont au même moment en France, c'est-à-dire grosso modo entre 1919 et 1924, 25 pour Deng Xiaoping. Donc, ces jeunes Chinois qui débarquent en France, au départ, suivent des cours, vont dans des écoles où ils apprennent le français, etc., où ils commencent à apprendre la culture française. Mais très vite, faute de moyens, sont obligés de travailler et donc rentrent dans les usines. Bon, pour Deng Xiaoping, ce sera les usines Schneider au Creusot, ou Tchinson à Montargis, ou encore Boulogne-Billancourt, Renault. Et donc, au contact de ce monde ouvrier français, ils vont apprendre ce qu'est la condition ouvrière et tout en gardant des liens très étroits avec leur pays. Il faut imaginer que les contacts ne sont jamais perdus, que les va-et-vient sont incessants. Et à l'époque, les paquebots mettent 3 semaines pour faire le voyage. C'est quand même moins long que du temps de Guillaume de Rubruck. Et donc, les connexions demeurent entre cette jeunesse chinoise installée en France et la Chine. Et dès leur retour en Chine, après 3, 4, 5 ans pour Deng Xiaoping, 4 ans pour Chuen Lai, ils retournent en Chine et commencent à y occuper les postes de responsabilité qui vont les amener au plus haut niveau. Et quand Deng Xiaoping reviendra en France, très longtemps après, puisque je crois que c'est dans les années 80 qu'il revient en France, cette fois-ci en tant que numéro un, leader chinois. Il aura quelques mots émus sur les souvenirs qu'il a gardés de son séjour en France, et notamment la saveur des croissants qu'il n'avait pas oubliés. Donc ce mouvement de cette jeunesse chinoise qui vient puiser au fond en France les ressources nécessaires pour transformer leur pays, c'est quelque chose qui est particulièrement profond, intéressant, et qui aura des suites. Par exemple, quand le général de Gaulle décidera de reconnaître la Chine en 64, c'est Chuen Lai, du côté chinois, qui est le premier ministre à l'époque, et Chen Yi, le ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi a passé 3 ou 4 ans en France, qui seront nos interlocuteurs pour établir ces premières relations entre les deux pays. Donc, cet investissement qui avait été fait du côté chinois et que nous avions fait en accueillant quand même ces Chinois dans nos universités aura des répercussions assez profondes. Mais au-delà de ces cas un peu célèbres, il y a une foultitude de jeunes Chinois qui viennent s'installer en France à l'époque pour faire des études. Tous ne sont pas politisés. Certains deviendront de grands artistes ou de grands écrivains. Pour citer certains d'entre eux, Baqing. Pakin, comme on le dit parfois en France, qui est le principal écrivain chinois des années 1950-1980, a vécu à Château-Thierry pendant 2 ans, dans les années 1925-1927. Vous avez toute une école de peinture, de peintres chinois qui résident à Paris dans les années 1920, 1930, 1940, qui reviendront effectivement en Chine pour occuper les premières places dans le domaine effectivement de la peinture métamorphosée, parce que la peinture chinoise classique, naturellement, est métamorphosée par ces jeunes peintres chinois qui découvrent l'impressionnisme et le cubisme et le fauvisme. Donc, dans le domaine de la peinture, c'est très net. Dans le domaine des sciences et des techniques, c'est aussi particulièrement vrai parce que naturellement, beaucoup viennent se former en tant qu'ingénieurs et retournent chez eux pour bâtir les entreprises chinoises qui, tout au long du XXe siècle, vont croître. Donc, en fait, je veux dire par ce qui précède que pendant toute cette période de déséquilibre politique et militaire profond, 1840-1940, grosso modo, en arrière-plan demeurent des liens très forts et qui, en fait, font que, au-delà des malheurs rencontrés par la Chine pendant ce siècle épouvantable qu'ils ont connu, des traces très fortes vont permettre, au fond, un dialogue de se renouer pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 2 secondes pour vous parler de la dernière période, qui est donc celle de la reconnaissance. Après, effectivement, que les deux pays aient quand même beaucoup souffert de la Seconde Guerre mondiale, je passe sur le cas français, mais il faut savoir quand même que l'agression japonaise en Chine n'a pas été non plus très, très drôle. Donc, les deux pays particulièrement à genoux vont faire un travail de reconstruction. Bon, du côté français, c'est la reconstruction que nous connaissons. Et du côté chinois, c'est effectivement, encore une fois, dans la douleur que se passe cette reconstruction, puisque la déliquescence du régime nationaliste de Chiang Kai-shek, d'une part, et la croissance du régime communiste, d'autre part, font que la Chine va encore connaître, de 1949 jusqu'à 1978, des périodes extrêmement difficiles, extrêmement troublées, où la Chine essaye de se reconstruire. Le pays a connu quand même, pendant plus d'un siècle précédent, des événements tellement tumultueux et tellement graves qu'il est à genoux. Et donc, le travail mené par les nouvelles équipes de Mao, effectivement, sera à la fois un travail de reconstruction et en même temps d'erreur monumentale, qui fait que pendant encore 2 décennies, la Chine va connaître des périodes extrêmement malheureuses. Et ce n'est qu'à partir de la fin des années 70, une fois Mao disparu, et l'avènement de Deng Xiaoping, que le pays va commencer effectivement sa véritable reconstruction. Et cela ira très vite, puisque, comme naturellement chacun a pu le constater, au cours de ces 30 dernières années, la Chine est devenue une des grandes puissances au monde, retrouvant sa fierté, retrouvant sa puissance qu'elle avait connue dans le passé, puisqu'encore une fois, la Chine a été la première puissance mondiale pendant longtemps. À l'époque, nous, au Moyen-Âge, nous n'avions pas encore commencé à construire les cathédrales. Les Chinois avaient déjà, dans leur capitale, Xi'an à l'époque, érigé des palais monumentaux et une civilisation qui était beaucoup plus développée que la nôtre. Donc la Chine a retrouvé ce rang au niveau mondial, qu'elle avait perdu pendant effectivement un siècle ou deux, mais qui fait d'elle aujourd'hui un partenaire incontournable pour l'équilibre mondial. Alors c'est un peu le défi que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement, du côté chinois comme du nôtre, de concevoir enfin un monde diversifié, qui n'est pas un monde de pensée unique, mais un monde où plusieurs civilisations peuvent cohabiter, de trouver les modes de fonctionnement entre nous qui fait que cette diversité soit plutôt un enrichissement qu'un obstacle, et tout ça dans un respect mutuel et une responsabilité réellement jouée. Et c'est là où on attend un peu les Chinois, parce que les Chinois ont retrouvé leur puissance, mais n'ont pas encore, comme dans le passé, n'ont pas encore véritablement intégré le rôle mondial et la responsabilité mondiale qu'ils doivent jouer, non seulement en tant que grande puissance économique, là c'est une évidence aujourd'hui, mais aussi en tant que grande puissance aujourd'hui régionale, c'est l'évidence pour tous les pays qui entourent la Chine, le poids de la Chine est incontournable, mais aussi une responsabilité au niveau mondial pour que sur les grands problèmes de l'humanité, que ce soit la paix, que ce soit la sécurité, l'écologie, l'équilibre général et le monde harmonieux, terme très chinois, puisse effectivement voir le jour. Nous avons besoin de la Chine pour bâtir ce monde-là. Et les Chinois ont aussi naturellement besoin des Occidentaux, d'une façon générale, pour bâtir ce monde de demain. Voilà, donc c'est un petit peu l'objet de ce livre. J'y ai consacré 3 ans. Pour moi, ça a été effectivement un enrichissement personnel, mais aussi la conviction que nous avons tous à essayer de construire ce monde dont je parlais à l'instant, et que la tâche est rude, mais que c'est une raison pour s'y atteler jour après jour. Merci.